VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Nigeria, la police de Kaduna, grande ville du nord-ouest du pays, a découvert et secouru plus de 300 garçons de nationalités différentes, dont des mineurs, victimes de tortures et de viols dans un centre d'enseignement islamique. La descente de police jeudi soir dans une maison du quartier Rigassa a conduit à la découverte des élèves et étudiants vivant dans des conditions inhumaines et dégradantes, sous couvert de leur apprendre le Coran et de les réhabiliter, a déclaré le porte-parole de la police de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo. Le propriétaire de l'établissement d'enseignement et ses 6 assistants ont été arrêtés. La lutte contre les djihadistes au Mali maintenant, 7 militaires ont été tués jeudi lors d'une embuscade dans le centre du pays, région en proie à des incursions islamistes et des violences intercommunautaires. Le bilan de l'attaque a été communiqué par les FAMA, les forces armées maliennes. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Une mission des forces armées maliennes qui escortait un transport d'engrais entre Douenza et Sévaré a sauté sur un engin explosif artisanal avant d'être attaqué aux armes à feu, ont dit les FAMA. L'attaque est attribuée à des terroristes. Le nord du Mali est tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes à la faveur de la déroute de l'armée malienne. Les islamistes du Moudiao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, ont été en grande partie chassés ou dispersés à la suite d'une intervention militaire lancée en janvier 2013 et qui se poursuit jusqu'à présent. Malgré la présence de l'armée malienne, la force du G5 Sahel, l'opération française Barkhane et les casques bleus de la MINUSMA, les violences ont continué et même se sont propagées vers le Burkina Faso et le Niger voisin, se mêlant à des conflits intercommunautaires qui ont fait plusieurs centaines de morts.
Afrique de l'Ouest toujours, en Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition a dénoncé la nomination des 15 membres de la nouvelle CEI, la commission électorale indépendante qui doit organiser la présidentielle de 2020. Les opposants ont accusé le pouvoir jeudi de se tailler une CEI sur mesure. Eric Maninakiza.
Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS est une coalition des partis politiques et associations de la société civile. EDS, dans un communiqué, dénonce et condamne la démarche qualifiée de cavalière du gouvernement et son obstination à vouloir se tailler une commission électorale sur mesure. Cette coalition de l'opposition évoque les risques que fait peser sur la Côte d'Ivoire le refus de tout dialogue politique et la propension au passage en force du pouvoir. Pour EDS, le pouvoir RHDP s'arroge 11 des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante. Aucun membre du PDCI, principal parti d'opposition, ne figure dans cette commission. La crédibilité de la CEI est cruciale en vue de la présidentielle de 2020, 10 ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts.
République centrafricaine, un groupe armé centrafricain signataire de l'accord de paix avec Bangui, fait état d'une attaque menée contre une de ses bases par la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Une opération qui a ciblé la localité de Koui dans le nord-ouest du pays. Le général Siwo, porte-parole du mouvement des 3 R, retour, réclamation et réhabilitation, a affirmé que l'attaque déclenchée jeudi matin s'est poursuivie jusque dans l'après-midi avec des bombardements aérien. Le général Siwo n'a pas fourni de bilan des affrontements. Le mouvement des 3 R fait partie des 14 groupes armés signataires le 6 février d'un accord de paix avec le gouvernement centrafricain qui vise à mettre fin au conflit qui déchire le pays depuis 2013. À noter que la veille de l'attaque, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, avait exhorté le leader des 3 R, Sidiki Abbas, a livré les auteurs des massacres commis en mi-dernier dans la région de Paroi, dans le nord-ouest du pays. Zimbabwe, la dépouille de l'ex-président Robert Mugabe a été transférée de sa résidence de la capitale Harare à son village natal de Kutama, dans le nord, en préparation de son enterrement prévu demain samedi. Ce transfert marque l'épilogue d'un bras de fer qui a opposé pendant des semaines les proches de l'ancien chef de l'État au gouvernement de son successeur Emmerson Mnangagwa autour du lieu de sa dernière demeure. Mort le 6 septembre, à l'âge de 95 ans, dans un hôpital de Singapour, Robert Mugabe, le père de l'indépendance du pays, devait initialement reposer au Panthéon national des héros de la lutte de libération à Harare, comme le souhaitaient les autorités. Mais sa famille a finalement eu le dernier mot en obtenant qu'il soit enterré dans son village.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Contestation en Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, homme fort du pays, a mis en garde hier contre toute entrave à la présidentielle fixée au 12 décembre. Cette élection est rejetée par la contestation qui réclame le départ du système au pouvoir depuis deux décennies. John Lyndon.
Dans un discours prononcé dans une caserne militaire à Béchar et publié sur le site du ministère de la Défense, Ahmed Gaïd Salah souligne que tous ceux qui se mettront en travers de cette solution constitutionnelle ou qui œuvrent à faire obstacle à ce processus national vital, sous quelque forme que ce soit, trouveront une sanction juste et rigoureuse, voire dissuasive, conformément à la loi. Cette mise en garde intervient à la veille de nouvelles manifestations aujourd'hui pour le 32e vendredi consécutif. Déclenchée en février, la contestation a poussé le président Abdelaziz Bouteflika à démissionner début avril. Les manifestants réclament le départ de l'ensemble du système au pouvoir, dont celui du général Gaïd Salah lui-même, un ex-fidèle de M. Bouteflika. Une présidentielle prévue début juillet a été annulée faute de candidats. Le pouvoir intérimaire a annoncé une nouvelle présidentielle pour le 12 décembre, comme souhaité par le général Gaïd Salah, devenu de fait le véritable homme fort du pays.
Poursuite ce matin à New York de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le programme d'aujourd'hui est le temps fort de la journée de jeudi avec notre correspondante sur place, Dili Diko.
Ce vendredi s'annonce plutôt calme sur le plan africain. La quatrième journée du débat général contraste avec les trois premiers jours au cours desquels les nombreux discours des présidents africains se sont succédés. Hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, venu s'adresser pour la première fois à la tribune des Nations Unies, a déclaré que le plus grand défi de son pays est celui de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Il a poursuivi en demandant une force onusienne moins pléthorique et plus efficace en RDC. Les deux priorités de son discours étaient la MONUSCO et la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Également jeudi, le vice-président ivoirien a pris la parole au nom du président Alassane Ouattara pour souligner l'importance d'une éducation de qualité qu'il a définie comme un investissement humain. Il a mis en avant la gratuité de l'enseignement de 6 à 16 ans et l'engagement de la Côte d'Ivoire à multiplier les infrastructures scolaires. Aujourd'hui, ce sera au tour du Soudan, du Cap-Vert et du Lesotho de représenter le continent. Au niveau international, le discours du Venezuela est attendu en début d'après-midi compte tenu des critiques faites par le président Donald Trump mardi dernier lorsqu'il évoquait les dangers du socialisme et la situation au Venezuela. À New York, Dili Diko, VOA Afrique.
Politique américaine maintenant, ici à Washington, publication hier des accusations de lanceurs d'alerte qui reprochent au président Donald Trump d'avoir sollicité l'ingérence de l'Ukraine dans sa campagne de réélection. Les détails avec Jean-Roger Bion.
À quelques 400 jours du scrutin, le président américain est sous la menace d'une procédure de destitution qui a peu de chances d'aboutir au Sénat, contrôlé par son parti républicain, mais représente tout de même la crise la plus aiguë de son mandat. C'est une honte, les démocrates se conduisent comme des pirates, il doit y avoir un moyen de les arrêter, s'est écrié M. Trump, visiblement touché par ce qu'il qualifie à la fois de blague et de pire chasse aux sorcières de l'histoire des États-Unis. De son côté, l'opposition démocrate l'a comparé à un chef mafieux et s'est emparé jeudi du document du lanceur d'alerte pour accuser la Maison-Blanche d'avoir cherché à étouffer le scandale. Le lanceur d'alerte, dont l'identité n'a pas été révélée, précise ne pas avoir directement assisté à l'appel au cœur des tensions, mais avoir échangé avec plus d'une demi-douzaine de responsables très perturbés par le change entre le locataire de la Maison-Blanche et le chef de l'État ukrainien. Officiellement, la Maison-Blanche minimise la portée de son signalement, une compilation de récits de troisième main et d'articles de presse qui ne montrent rien d'inapproprié selon elle. Même pour la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le lanceur d'alerte a mis au jour une manœuvre pour étouffer l'affaire. « Nous devons mener une enquête pour clarifier les faits », a poursuivi Mme Pelosi, qui a longtemps freiné l'aile gauche du Parti démocrate désireuse d'initier une procédure de destitution contre Donald Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.voaafrique.com.